Au quotidien, 5e édition.
Bonjour à tout le monde. Nous sommes vendredi, le 15 juillet. Donc, à mi-parcours du mois de juillet. Pour moi, autour du 15, 16, 17. En fait, il me semble que c'était le 16 juillet en 1976, les Jeux olympiques de Montréal. Moi, ça m'avait beaucoup marqué. J'ai travaillé là, aux Jeux olympiques de Montréal à cette époque-là. J'ai rencontré une personne qui a marqué ma vie pendant un petit bout de temps. Alors, quand on arrive vers ces dates-là, là, j'ai toujours un peu de fébrilité. Et vous, Francine, qui co-animez avec moi cette émission, comment
allez-vous? Bonjour, Yvan Deslauriers, vous allez bien?
Très bien, merci.
Oui, ça va bien. Écoutez, avec la température qu'on a, c'est très difficile de ne pas bien aller. Quoi qu'il va faire un peu chaud ce week-end, on annonce la première vraie canicule de l'été. Bon, mais on va s'organiser avec
les
ça.
Les autres avant, c'était pas des vrais?
On n'était pas l'été.
On a eu des canicules du printemps, toi.
Exactement.
Et là, on a fait rigoler Mathieu Tessier à la console. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes venu comment, vous, aujourd'hui?
Toujours de bonne humeur, mais je sais que c'est jamais votre question. Je suis venu en vélo ce matin.
Merci. Donc, ce matin, ça roulait bien. C'était frais encore.
C'est mon genre de journée d'été, ça.
Oui.
Franchement,
hein?
Peu de gens sur les routes, une petite fraîcheur.
Oui.
Le soleil qui se lève. Il n'y a pas de pollen dans l'air.
Mm-hmm. Je vous parlerai de vélo de longue distance plus tard dans l'émission.
J'ai hâte.
Parce que j'ai des gens que je connais qui font un défi particulier. Alors, je vous en parle un peu plus tard dans l'émission. Demain, là, j'espère qu'ils vont avoir un petit ventilateur pas loin, beaucoup d'eau.
Demain est un autre jour,
comme on dit. Demain sera un autre jour, c'est très sage.
Voilà, et souvent aussi, on nous annonce canicule et tout ça. Il faut voir s'il n'y aura pas une petite bise, par contre, où il y a peut-être des oasis de fraîcheur.
Bon. Mais c'est l'été.
Demain, c'est demain.
C'est l'été, quand même. Il faut... l'hiver, on se plaint qu'il fait froid, là, l'été... Faut arrêter de se plaindre. C'est beau le Québec parce qu'on a quatre saisons encore pour l'instant.
Ça nous donne un bon sujet de conversation, en tout cas. La
température, c'est notre sujet de prédilection. Ça part une émission, ça, à toutes les fois. Francine, parlez-nous de ce qui a marqué votre semaine, cette semaine.
Ah, trois choses de différentes natures. Premièrement, dans la Presse Plus du 9 juillet, il y avait un écran de Caroline Touzin. En fait, la Presse Plus a décidé pendant cet été qu'elle nous ferait connaître des acteurs de changement dans leur domaine.
D'accord.
Et elle a fait une rencontre, une entrevue avec Claudel Pétrin-Desrosiers. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose.
C'est une jeune médecin.
Elle est vraiment très jeune et très militante. Et depuis le début, pour elle, la médecine a un rôle social et politique. Alors, je souligne ses interventions. Moi, je la suis sur Twitter. Je trouve ça très intéressant parce qu'elle fait un lien entre la santé et l'environnement.
Oui,
mais ça me permet aussi de souligner le travail d'autres médecins qui sont plus expérimentés qu'elle, mais qui... elle est quand même très percutante.
Oui, elle est toute
jeune. Pense à Joanne New, je pense à Alain Vadeboncœur. Alors, bravo pour ça, parce que c'est intéressant. C'est parfois troublant, c'est interpellant. Mais toujours sur fait de manière à ne pas être critique de façon abusive.
Mm-hmm. Intéressant, oui. Je pense qu'elle est présidente d'une association de médecins pour l'environnement ou les changements climatiques ou quelque chose.
C'est possible. J'ai pas fouillé sa biographie. J'ai simplement regardé ça puis je me dis, ah, c'est vrai, j'aime ce type d'intervention et je suis sûre que je suis pas la seule. Et c'est mieux parfois pour connaître d'autres points de vue de suivre ces experts plutôt que de suivre n'importe qui, et je ne dirai pas qui fait partie du groupe des n'importe qui.
On a juste une heure et demie dans cette émission aussi.
Ben, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps. À un moment donné, il faut se censurer. Alors, vous aviez parlé tantôt du 15 juillet. Alors moi, je retiens toujours cette date parce que justement, je viens d'en parler, mais c'est quand même un réseau social que moi j'aime beaucoup, qui est Twitter. Et le 15 juillet 2006, c'était l'année de lancement public de Twitter, et on avait publié 250 tweets à ce moment-là. Bon, Twitter qui a fait une petite panne encore cette semaine, mais disons que Twitter, ça a été quand même... c'est quand même un beau réseau pour pouvoir se parler pour engager la conversation. Bon, il y en a qui manquent de mesures, mais il reste de façon globale que c'est quand même très, très bien. Et puisque nous sommes dans le domaine technologique, nous avons beaucoup, beaucoup parlé, n'est-ce pas, de la fameuse panne, la panne Rogers. Vendredi, on en était là, en pleine émission. Hein, on a eu des petits problèmes causés par cette panne. C'était rien en comparaison là, du fait qu'il y avait des gens dans d'autres provinces qui n'avaient même pas accès au 911. Et là, je lance une fleur, non pas à Rogers, parce que je trouve qu'ils n'ont pas très bien géré ce dossier-là. Je suis une abonnée Rogers et j'ai reçu hier un mot du président qui s'excusait et tout ça. Et on aurait pu le faire avant. Je dirais que s'il y avait eu une bonne gestion de la communication, normalement, on l'aurait fait avant. Mais bon, passons là-dessus. Mais à notre ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, qui a été vite sur la gâchette, comme on dit par chez nous, qui a réuni les grands propriétaires, hein, pas juste Rogers, mais Bell, TELUS, Vidéotron, etc., et leur a dit « Vous avez 60 jours pour faire un protocole d'assistance mutuelle parce que la situation qu'on a vécue est inacceptable. » Alors, bravo, M. François-Philippe Champagne.
Oui, il a mis une date. Hein?
Il a mis une date. Il a mis une date. Alors, au mois d'août, ça devrait être fait. Mm-hmm. Et vous, mon cher Yvan?
Moi, de mon côté, plusieurs petits événements. Ça commence avec des photos de l'espace. Je sais que vous avez un sujet pendant l'émission qui touche un peu à ça.
Mais un peu beaucoup, mais disons qu'on ne sera pas dans les mêmes zones.
C'est ça. Ou dans les mêmes espaces. Mais j'ai vu les photos du télescope de James Webb.
Ouais.
James Webb, qui était un simple fonctionnaire qui avait travaillé sur la mission Apollo. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait de fantastique lors de cette mission-là. Mais moi, j'ai été simple fonctionnaire aussi. C'est pour ça que ça m'a frappé. Alors, ils ont donné le nom du monsieur au télescope en question. Mais les photos sont extraordinaires. Et ce qui m'a frappé, moi, c'était les couleurs. Parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment noir et blanc. On est dans l'espace, là. Je veux dire, ils ont pas de spot de couleur ni rien. Mais non, c'était vraiment impressionnant.
Et il y a une exoplanète, entre autres, qui ressemble étrangement à la Terre.
Oui,
hein?
oui.
Hi, là, là. Alors, c'est peut-être là que nos petits martiens vont venir. Il va falloir les dénommer, là, parce qu'on ne peut pas les appeler martiens.
Ou c'est peut-être là qu'on va aller. Ça peut aller dans les deux sens.
En fait, James Webb est connu parce qu'il a été le deuxième administrateur de la NASA.
Ah, quand même.
Il a aidé au développement.
Il est un fonctionnaire pas si mineur que
fait que Yvan, qui se prétend simple fonctionnaire, se compare à James Webb.
Non, je reste au niveau des pâquerettes. N'inquiétez-vous pas. Puis je suis à la retraite, alors ça ne peut pas changer. Une autre chose qui m'a touché cette semaine, c'est la fin de l'animation de Denis Gagné à l'émission L'Épicerie. Il y avait une émission un peu spéciale. Ce qui m'a beaucoup frappé, outre que c'était la dernière émission de Denis Gagné, c'était ce qui a marqué les gens à travers cette émission-là, dont des immigrants qui ont appris le français à travers cette émission-là. Ça m'a beaucoup frappé. Et on a commencé, Marie Lalande et moi, à regarder la série Larry hier. Et ça nous... C'est... Oh boy! C'est une très bonne émission, là. C'est du Stéphane Bourguignon. Stéphane Bourguignon, c'est La vie, la vie.
La vie, la vie, oui.
C'est pas La vie, la vie en passant, là. C'est vraiment d'autres choses. C'est avec Benoît Gouin qui joue le rôle d'un inspecteur déchu qui va décider d'essayer de trouver des méchants, des bandits. Il y a eu une fusillade, sa femme a été touchée à la moelle épinière, elle ne peut plus marcher. Je vous laisse là-dessus. Ce qui m'a beaucoup frappé, entre autres, c'est la répartition des rôles. À une époque pas très longtemps, il n'y a pas très lointaine, on se disait que c'était surtout blanc dans nos écrans, mais là, c'est pas surtout blanc. Puis c'est pas toujours les rôles de méchants qui...
Tant mieux. Yvan, sur quelle plateforme on peut voir
Je ne voulais pas faire de publicité, mais c'est tout.tv extra.
Il faut savoir où aller la voir.
Oui,
ce n'est pas de la publicité, c'est de l'information.
Voilà. Et à notre émission d'aujourd'hui.
Ben, on va parler du dimanche. Le dimanche qui était une journée extraordinaire dans le temps. Et maintenant, qui est devenue une journée assez banale. Hein? C'est la 7e journée de la semaine ou la première journée de la semaine,
ça
peu dépend. Alors,
ça,
c'est notre historien, Marcel Dugas, qui revient de vacances, qui va nous parler de ça. Je vais vous parler d'une étude sur l'accessibilité des petits bâtiments au Québec pour les personnes handicapées. Et comme vous l'avez annoncé, bien oui, je vais revenir sur les télescopes.
Oui, oui, c'est ça. Mais plus de bas de gamme que le James Webb.
Je dirais ça, oui,
ça
je dirais
ça. Des télescopes, ils vendent des lauriers.
Des télescopes adaptés à nos moyens.
D'accord, OK. De mon côté, on va parler de crème solaire, parce que je m'en vais en vacances. Et deuxièmement, on va parler aussi avec Carole Froment du Centre d'intégration à la vie active. Il y a une journée spéciale qui s'en vient pour eux autres et elle va nous expliquer ça. Alors, comme je m'en vais en vacances pour quelques semaines, voici la chanson qu'on a choisie.
Il la remercie de l'avoir accompagné à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez... Tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours.
Retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ah, il espère que c'est l'enfumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore? Oh là là.
Puisque vous partez en voyage,
vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins ou davantage pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage. Et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Françoise Hardy, Jacques Dutronc, puisque vous partez en voyage.
Merci Mathieu. Parlant de voyage, on va aller du côté de Rimouski avec Le Devoir ce matin.
Ça, c'est Léon de Montréal?
C'est les Unes de Montréal, oui. Anne-Marie Provost dans Le Devoir, ça sent le roussi à la cantine côtière. En fait, oui. Elle nous parle de la chef Colombe Saint-Pierre, qui, pendant la pandémie, a eu l'idée d'avoir une espèce de food truck, excusez l'expression, mais c'est un peu comme ça qu'on les décrit. Et mais semble-t-il que son comptoir ne peut pas continuer à œuvrer. Et la municipalité de Rimouski l'a averti que l'été prochain, en vertu d'un règlement de zonage, elle ne pourrait plus, en fait, installer sa cantine juste en face de son restaurant. Alors, le propos du maire, ce qu'il dit, c'est qu'il propose qu'il y ait une révision du règlement de zonage en cause, mais que ça soit la même situation ou la même permission
pour tous les restaurants.
Tous les restaurateurs et qu'il n'y ait pas de passe-droit d'une certaine façon. Alors, c'est à suivre parce qu'évidemment, on aime bien Mme Saint-Pierre et que, évidemment, aussi, cette initiative lui a permis de maintenir son restaurant ouvert, d'ailleurs, qui est ouvert à ce moment-ci.
Et je suis déjà allé manger à cet endroit-là.
Bien chanceux.
C'était extraordinaire.
La lumière naturelle sacrifiée sur l'autel des économies, alors toujours à la une du Devoir, des fenêtres qui sont remplacées par des murs dans une école d'Outremont et les gens sont vraiment pas contents et Olivier Duruisseau nous apprend que plusieurs parents disent qu'en dépit des promesses du gouvernement de François Legault, qui est supposé de construire de plus belles écoles, les plus belles écoles du monde, hein, c'est ce qu'il dit, souvent, mais c'est pas du tout ça qui se passe dans le cas de cette école, parce qu'on a voulu économiser 400 000 $ sur un projet au coût total d'environ 1 million de $. Alors, les parents sont vraiment pas contents dans cette école d'Outremont. Du côté de la presse plus maintenant, il y a plusieurs manchettes. Je vais commencer par le cinéma québécois, voilà. Je trouve que c'est important d'en parler. Alors, il y a à la une la double vie de Luc Picard.
Oh oui.
Bon, Luc Picard qui a réalisé un film sur la vie de Gérald Galland, un tueur à gages qui s'est fait pas mal aller, je dirais ça comme ça.
Il était pas gentil, lui.
Il était pas gentil. Mais en tout cas, il a l'air gentil. J'ai vu des séquences de promotion, puis il a l'air gentil dans le film, mais il était pas gentil. Il fallait se méfier.
Il faut se méfier de l'eau qui dort. Hein?
Dans ce film, Luc Picard joue et réalise Confession. C'est le titre du film, et on en parle longuement dans une entrevue qu'il a accordé à Marc-André Lucier de La Presse. Toujours à la une de La Presse Plus, on parle du taux d'arsenic, évidemment, à la fonderie à Rouyn-Noranda. Mmh. Et la manchette dit « C'est comme si je faisais fumer mon gars ». Alors ici, on parle d'un jeune, finalement, qui a un taux important d'arsenic élevé dans son corps. Et il y a plusieurs écrans qui portent là-dessus, entre autres un qui fait état d'une possible poursuite là, si jamais le gouvernement n'agit pas. C'est un homme d'affaires qui dit qu'il va falloir faire quelque chose, comme on dit.
Mm-hmm.
Aussi, à la Presse Plus, on parle de fabricants québécois qui songe à s'installer au Mexique. C'est Nathalie Morissette dans un écran sur le secteur manufacturier qui dit que faute de bras disponibles, il y a des fabricants qui envisagent de s'en aller au Mexique parce qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre pour ne pas limiter leur production de mobilier et les mettre en péril. Enfin, on va aller voir du côté du Journal de Montréal. Journal de Montréal qui parle de la vaccination
des plus jeunes, des
tout
petits.
Oui, hein. Pour les 6 mois à 5 ans. Alors, ça a été annoncé, ce sera possible. Et les parents, mais sont assez partagés. Hein. Ils ont rencontré plusieurs parents et disons que certains sont très en faveur et disent que ça va faire partie de notre petite routine, notre calendrier avant de partir en vacances. Et pour d'autres, bien, on dit que c'est un peu effrayant. Et aussi, cinquième attaque contre un policier. Alors, à peine en 18 mois, on remarque que cette fois, on s'attaque cette fois, je dis, parce que c'est arrivé récemment à Montréal, et c'était une autre attaque, et c'est, semble-t-il, un nombre très élevé par rapport à ce qu'on connaît. C'est Frédéric Giguère et Maxime Delan qui en parlent dans le Journal de Montréal.
Merci beaucoup, Francine. On se tourne vers Monique Kirouac pour les unes de la région située entre Granby et Sherbrooke, communément appelée Estrie, canton de l'Est, et plein d'autres choses.
Eastern Township, quant à faire.
Quant
parce
à
que
faire.
Là, oui, c'est ça.
Oui, parce qu'on est bilingue, n'est-ce pas?
Oh, beaucoup là-bas.
Juste la présentation de ce segment-là commence à prendre beaucoup de temps.
Bon, alors parlons éducation, les amis.
Oui.
Avec la signature à Granby d'un protocole d'entente entre la ville et l'Université de Sherbrooke pour développer un pôle universitaire, celle-ci, l'université, mise sur un déploiement encore plus complet de ses activités sur l'axe de l'autoroute 10. Alors, son recteur, le professeur Pierre Cossette, y voit une belle nouvelle pour le rayonnement de son établissement. Il faut rappeler que l'Université de Sherbrooke, depuis 30 ans, a un campus fort important à Longueuil qui offre des programmes surtout de cycle supérieur. La mise en œuvre du projet incombera dès septembre à Christian Malot, qui était depuis 4 ans directeur général du quotidien La Voix de l'Est, toujours à Granby, et qui agira comme conseiller spécial au rectorat et à la mairie de Granby.
Est-ce qu'on dit s'il va y avoir une orientation particulière à cet établissement?
Non, on n'en parle pas encore. On cherche les locaux, en fait. Alors, sur le plan touristique, pour une deuxième année consécutive, le manoir OV a été nommé le meilleur hôtel de villégiature au Canada par le magazine Travel and Leisure World's Best Awards 2022. Ce sont des lecteurs de la revue qui font le répertoire, en fait. Et il faut aussi souligner que ce manoir magnifique est aussi en cinquième position dans la liste du top 100 des meilleurs hôtels au monde. Il faut rappeler qu'il est donc à North Atlee, sur le bord du lac Massawippi.
Oui, de très beaux lacs Massawippi.
Et un très bel hôtel aussi où on y mange très bien. Alors, sur le plan environnemental, alors entre autres en Estrie, des rubans marqueurs et de la peinture de différentes couleurs apparaîtront sur les arbres des forêts au cours des prochains mois. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le MFFP, va effectuer des travaux sur des forêts, dans des forêts publiques et privées qui vont se poursuivre jusqu'au 15 novembre prochain. Les rubans marqueurs et la peinture servent à la numérotation des arbres et dans certains cas, on va même prélever la surface du sol ou une carotte d'arbre. Ces données traitées et analysées offriront un portrait représentatif des forêts situées sur ce territoire.
Ah.
Toujours sur le plan environnemental, alors si vous avez l'intention de vous baigner sur les plages de Magog, attention parce que la dermatite du baigneur revient faire son œuvre. On rapporte quelques cas au cours des dernières semaines sur son territoire, mais attention, il n'y a aucun lien entre la dermatite du baigneur et la qualité de l'eau. Cette infection cutanée est causée par de petites larves que l'on retrouve dans certains lacs. Donc, pour éviter d'avoir des démangeaisons, il faut toujours mettre de la crème solaire avant la baignade, ne pas demeurer assis ou couché au bord du lac, bien se rincer dans l'eau de la douche après la baignade et s'essuyer avec une serviette ensuite. Et bien sûr, éviter de se laisser sécher au soleil, c'est là que la petite bête agit.
Oh, mais c'est triste un peu, c'est intéressant sécher au soleil quand même.
Oui, c'est bien, mais ben, faisons-le debout et après s'être douché en fait.
C'est un beau compromis.
Oui, c'est ça. Alors, sur le plan humain, Yvan, Sébastien Jacques est bien connu pour son périple de plusieurs milliers de kilomètres de marche dans les dernières années aux États-Unis. Il se lance dans une nouvelle aventure. Le Magogois traversera l'Italie du sud au nord en 50 jours.
Oui, quand même.
Oui,
c'est pas plat, l'Italie, hein?
Ça correspond à 45 à 47 marathons, rien de moins. Il faut rappeler que ce jeune homme a subi une opération délicate en 2015. Il avait une masse relativement volumineuse à l'intérieur de son cerveau. Aucun médecin au Québec ne voulait le soigner. Il est donc allé en Californie où il a obtenu son opération. Il s'est remis au travail et la détermination de cet ancien joueur de tennis l'a poussé à parcourir 5000 kilomètres à travers l'Amérique du Nord, un périple qui avait duré près de 4 mois en 2017, donc seulement 2 ans après cette délicate opération. Mmh. Et l'un de ses futurs objectifs, Yvan, sera de traverser le désert d'Atacama au Chili.
Ouf.
Est-ce que vous voulez une autre nouvelle?
Allez-y, oui, rapidement.
Oui, une ours et ses 3 petits ont été aperçus dans la cour de l'école Sunnyside à Stansted mercredi matin vers 8 heures. La ville fait donc appel à la prudence de ses citoyens et de ses visiteurs. Les piétons et les cyclistes qui empruntent la piste cyclable à proximité de l'école doivent redoubler de prudence dans les circonstances. Et voilà, c'était quelques brèves de l'esprit des cantons de l'Est, Kingston, Stanchet et de Eastman.
Etc. Merci beaucoup, Monique, et on se reparle bientôt.
Oui, bonnes vacances.
Merci. Pour ma part, du côté du soleil, il n'y a pas de plan pour la maison mère des espaces bleus au séminaire de Québec. Et quand j'ai lu cette nouvelle, ça m'a fait penser un petit peu, comment ça s'appelle la bibliothèque sur Saint-Denis? Là,
bibliothèque Saint-Sulpice?
Oui.
Oui.
Alors, gardez ça en tête juste pour le fun. Avoir les ouvriers s'affairer au pavillon Camille Roy du séminaire de Québec, nous pourrions croire que les travaux pour la création de la maison mère des espaces bleus, si chers au premier ministre François Legault, avancent rondement. Or, il n'en est rien. Le soleil a voulu visiter le chantier pour constater l'avancée, pour vous permettre de voir à quoi ressemblera la tête du réseau de nouveaux lieux culturels d'exposition et de diffusion. La demande a été rejetée par le ministère de la Culture et il y aurait des enjeux de sécurité. Mais aurions-nous pu y observer des éléments constitutifs de l'espace bleu? Pas certain. Nous avons également demandé des esquisses, des projections architecturales, mon Dieu, des images, au moins des plans de construction, quelques documents que ce soit permettant de visualiser l'aménagement du plus grand espace bleu dont des succursales seront disséminées dans les 17 régions du Québec. Il a fallu insister pour apprendre que les plans sont encore sur la table à dessin. Alors, ça vous rappelle pas quelque chose, vous?
Ben, ça a duré longtemps, l'histoire de Saint-Sulpice.
Oui. Et il y a aussi des retards dans l'octroi des visas pour des événements, des congrès à Québec. On aurait pu mettre / Montréal, etc. Et du côté d'Ottawa, ça va mal à Montfort. C'est très long quand on arrive là juste pour pouvoir y entrer. Alors, on s'aperçoit que les problèmes d'hôpitaux, c'est pas juste au Québec. Dans la prochaine demi-heure, on va recevoir Serge Hamelin qui va nous parler justement de crème solaire. Marcel Dugas va nous dire demain, on sera dimanche, en fait, dans quelques jours, et on se reparle bientôt.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forgette.
1, 2, 3. Ne me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Oh, reviens, soleil, soleil. Ne regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à 3 et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Oh, reviens, soleil, soleil. prochaine fois que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir. On pourra tous partir.
La chanteuse Pomme qui chantait « Soleil, soleil ».
Donc, une autre chanson qui nous invite aux vacances, et moi, j'y répondrai bientôt. Serge Jamenin, vous allez nous parler de crème solaire. Et Monique Quiroy, qui, il y a quelques instants, en a parlé aussi pour prévenir la... Comment on dit? La dermatose du nageur.
La dermatite.
Dermatite du baigneur. Je l'avais quasiment tout croche.
Ah bon, quand même. Moi, je ne parlerai pas de la dermatite du baigneur. Je vais parler du coup de soleil.
Ah oui,
et c'est quand pour même... comment éviter certains cancers de peau dans la mesure du possible avec certains produits qu'on a mis sur le marché et qu'on a testé dépendant et on a testé ça, c'est merveilleux. On n'a pas testé sur les êtres humains d'après la revue Protégez-vous.
Non,
j'ai découvert ça il y a 2 ans car on a fait des tests sur les crèmes solaires et j'ai découvert la crème.
Oui?
Oui.
Le numéro là, qui vient avec, là, ouais. C'est important, je
pense. Le numéro, à partir de 30.
À partir de 30.
En mode de 30, c'est pas assez. C'est le filtre solaire, ça,
oui,
le
c'est ça.
FPS.
OK,
il faut que ça soit un peu plus élevé.
Mais il y a quand même des différences. Là,
il y a des différences, oui, parce que c'est dans la durée du temps.
Avant
c'est 40 minutes, 80 minutes en général. Et il faut se crémer à toutes les 2 heures dans la mesure du possible. Et se crémer. Ça prend combien de crème, pensez-vous, pour se crémer la figure et le cou? Et ça coûtera combien pour se crémer la figure et le cou? Eh bien, dans la revue Protégez-vous, on l'explique, ça va prendre l'équivalent d'une cuillerée à thé pour la figure et le cou.
Seulement?
Ouais, une cuillerée à thé, assez de
crème. Mon Dieu, faudrait que je dise ça, Marie.
Et puis, pour le reste du corps, ben là, si on en met partout, ça va prendre l'équivalent au total de 7 cuillerées, ce qui équivaut à 35 millilitres. Alors, comme un contenant va en contenir environ 250, on met la moyenne, alors vous divisez, si vous en mettez partout sur le corps à toutes les 2 heures, votre exposition au soleil peut revenir plus cher qu'un billet d'avion, finalement.
Oui, en fait, on ne devrait pas aller acheter un produit seulement. C'est une boîte qu'on a besoin.
Non. Ce qui est très intéressant... c'est quoi ce qui était très intéressant? Ah, ce qui est très intéressant, c'est que... Non, c'est parce que j'ai une fatigue mentale ce matin. Alors, donc, j'entrerai pas dans les détails. Alors donc, ce qui est très intéressant, c'est que les produits, chaque application va aller entre 1$ et 12$. Vous avez le choix du produit et qui aura la même efficacité que celui de 1$, que celui de 12$. La même efficacité. C'est incroyable, hein?
Mmh.
Alors, par exemple, le Banana Boat, que tout le monde connaît,
oui, oui.
Qui arrive en première position.
Qui a une certaine odeur, me
semble. Oui.
Eh bien, voilà. Lui, il est parfumé.
Oui.
Alors, il y en a qui sont parfumés au coco, il y en a qui sont parfumés à la banane. Alors, si vous voulez passer inaperçu, vous allez prendre le produit, comme moi, ce matin, je m'en suis mis sur les bras pour que nos auditeurs sentent, n'est-ce pas?
Oui,
que ça sent rien.
Non, mais on est en odorama ici.
Oui, puis un gros éclairage dans le studio.
Non, mais ça sent rien. Hein. Avez-vous, à part mon...
Ben, on est trop poli pour répondre à cette question.
Non, merci. Laissez faire la politesse, là.
Ah, on va garder nos impressions.
Alors, ça sent pas la banane, en tous les cas, et ça sent pas le coco.
Non.
Ça sent gentiment
ça sent la crème.
Un petit quelque chose.
Oui.
Bon. Alors, le Banana Boat qu'on achète à 10$ pour 315 millilitres, eh bien, à chaque application pour un corps au complet, va coûter 1$ et 11 cents. Mm-hmm. Et le Biotherme, lui, qui a le même effet, lui, coûte 40$ pour 200 millilitres seulement. Alors, chaque application va vous coûter 7$.
Aïe, aïe, aïe.
C'est quelque chose. Hein, c'est fou. Et l'EKT que je vous ai apporté ici en studio, que j'ai découvert il y a 2 ans grâce à la revue Protégez-vous, lors d'une chronique extraordinaire, Eh ben,
elles le sont toutes.
Ah, oh, c'est merveilleux. Alors là, ça c'est pour les peaux sensibles comme moi. Eh bien, je suis allé hier m'en procurer presque une caisse à 7,47 $ pour combien? 237 millilitres. 7,47 $, et c'est le seul endroit où on peut en trouver. Je ne veux pas faire de publicité pour l'endroit.
On peut-tu faire des amis à cet endroit-là?
Mais c'est Walmart.
Ah, oh, oui?
Étrange.
Mais c'est étrange. Est-ce que vous les revendez quand vous achetez une caisse comme ça?
Non, non, j'en mets sur mes toasts. Parce que des toasts, des fois, c'est brûlé. Hein?
Ah!
Oh, oh, mon Dieu!
Mais là...
Oh, que je fais de l'esprit...
Oui. Je vous dirais de ne pas suivre le conseil, chers auditeurs, ben de notre chroniqueur, parce que...
Franchement, c'est tellement évident que c'est nono.
À ce temps-ci de l'année, c'est mieux de la confiture aux fraises.
Oui, ah, que je fais d'ailleurs. Ah, oui. Avec les fraises à 2,47 $ qu'il y a eu, elles étaient bonnes. Ah, franchement...
On est vraiment dans une chronique consommation, là.
Ben, c'est ça.
Consommation été, je trouve.
Je remarque quand même que votre bouteille de...
Hécaté.
De Hécaté.
Oui.
J'ai failli dire équate,
mais
écaté. Ça ressemble à des bouteilles autres, de d'autres produits. Ça, c'est bleu, puis ça a le même style. Ouais, ça, c'est fait exprès pour qu'on se trompe.
Je ne sais pas trop. Alors, écoute, je vais vous dire les meilleurs marchés, les plus chers aussi. Alors, il y en a qui résistent à l'eau ou résistent à la transpiration. Mon suggère, c'est ça. Après une baignade, il faut en remettre. Ou après un sport sur la plage, le volleyball, par exemple. Ouais, ouais. On en remet, on en remet.
J'haïs tellement ça, faire ça.
Le volleyball?
Non, mettre de la crème.
Bon, ben, vous n'avez pas quelqu'un qui vous en mettrait?
Bon, on fait un appel à tous. Mais il y a des choses dans la vie, là. Moi, acheter de la crème solaire, j'haïs ça.
Ah, mais moi, maintenant, j'aime ça parce que ma peau le demandait et j'ai découvert le produit qui me fait énormément de bien.
Parfait.
Alors, je suis très content. Alors, en première position cette semaine avec le Banana Boat Ultra Sport Lotion Écran Solaire à 10 $ environ pour 315 ml à 1,11 $ l'application. Ensuite, en deuxième position, parce qu'il est bon, mais malheureusement il est très cher, c'est le Bioderm Lait Solaire Core. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Zora, lui qui arrive en même position que les autres, lui, il n'a pas de filtre chimique. C'est un filtre minéral. Et il est composé de zinc.
Oui.
Okay. Le zinc, c'est bon. Mais il se vend 40 $ là. Chaque application, c'est 12,17 $ que ça coûte.
Vous savez.
S'enduire le corps.
C'est drôle parce que les crèmes de zinc, là, ça sert à d'autres choses aussi, hein, vous savez.
Oui.
Quand on a des petits bébés. Là.
Aussi. Mm-hmm. Hein? Ah oui, toutes sortes de choses. Là, le zinc, c'est très bon pour la santé, pour la peau. Ensuite, donc, le Biotherm à 40 $, et puis l'Équaté, ou Écaté, à 8 $, ça c'est merveilleux. Et puis, vous avez le Garnier, des soins complets, sensibilité avancée, 19 $. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi on opterait pour quelque chose à 40 $ ou à 19 $, alors que l'Écaté à 8 $ fait l'affaire. Mais je vous le mentionne, parce que, bon, je sais pas trop.
Mais ce que je retire de ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, c'est qu'il faut un FPS.
Oui, un FPS filtre, à partir de 30.
À partir de 30.
C'est des filtres de protection solaire.
Après ça, toutes les crèmes s'équivalent. Toutes les 30 s'équivalent, puis toutes les 50 s'équivalent.
Oui, bien là,
à part le prix.
Ici, on a fait des tests, et les tests, on ne les a pas faits sur des humains, hein, parce que ça serait un peu compliqué de faire brûler des humains pour savoir si le produit est bon. Alors, on le fait sur une plaque de silice et ça mesure la capacité à bloquer les rayons UVB et UVA à l'aide d'un spectromètre.
Oh.
Alors, comment on a testé?
Ce
n'est pas sur des humains, ce n'est pas
sur
des souris,
animaux.
Non.
Ouais.
Non, c'est une plaque de silice.
Ah, OK, ça, je suis content.
Quelque chose, hein?
Content d'apprendre
Alors donc, tu vois, les performances des écrans solaires est assez uniforme en général, mais c'est les prix, eux autres, qui varient. Entre 1 $ à plus pour les applications.
C'est excellent. Alors, moi, je m'en vais de ce pas. Non, on va attendre la fin de l'émission.
Ouais.
Puis, je m'en vais
en vacances.
Alors, je vais aller chercher des crèmes
solaires. Une crème, et c'est dommage parce que la semaine prochaine, j'étais pour vous parler des moustiques. Là. La semaine prochaine, je vais vous parler de quel choisir pour les moustiques. Allez-vous dans un endroit où il y a des moustiques?
Aux îles de la Madeleine.
Ah, mon Dieu Seigneur. Il n'y a pas de moustiques. Là, ils se rendent pas.
Le soir, oui.
Le soir, aux îles de la Madeleine?
Oui. Mais je vais écouter parce que je peux le faire en rattrapage sur balade.
Ah oui, ça va être beau.
Je vais vous écouter.
Mais il y a des moustiques un peu partout, là, maintenant. Hein? Serge, vous allez faire œuvre utile. Sûr.
Ah, bon, mais tant mieux.
Oui, mais vous faites œuvre utile, d'ailleurs, toutes les semaines.
Ah, ben, je suis content d'entendre ça.
Par rapport aux moustiques, là, c'est bien important. Oui. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir orienté sur mes...
vos crèmes.
Sur mes crèmes que j'haïs acheter et étendre. Ah,
faites-vous étendre. Faites-vous étendre, je sais. Mon Dieu, les mains baladeuses, là.
On va s'arrêter ici.
Dans le fond des huiles, dans cette école, dans cette photo, dans ce grand panneau, dans cette enseigne de café américain, dans ce magazine bimensuel, dans les animaux, dans ce type de plante d'agave, dans cette forme de dans cette forme de poteau, dans cette manière de chignon, et dans tous les chats, dans ces talons qu'il ne mettait pas dans cette chanson. À cette heure du jour, à cette heure de la nuit, quand je fais l'amour dans l'après-midi, à cette heure du jour, à cette heure de la nuit, quand je fais l'amour.
Le groupe Feu Chatterton qui chantait « Tes yeux verts ».
Marcel Dugas, venez à notre secours.
Bonjour, ben, c'est une lourde tâche que vous me donnez là.
Ben, c'est parce que la semaine dernière, là, j'ai essayé de vous remplacer. Je suis très heureux que vous soyez au micro et puis Francine va prendre le relais ici. Là. Elle attend que ça.
Je vais vous laisser la parole, Marcel. J'espère que vous avez passé de belles vacances quand même.
Tout à fait, tout à fait.
Bon, alors moi, je suis bien heureuse de votre retour. Disons qu'on a eu un chroniqueur la semaine passée qui s'appelait Yvan Deslauriers. Ben, on a fait avec.
Oui. Non, je suis sûr qu'il était très bon.
Il était à ses débuts.
Mais disons qu'on a hâte de vous entendre, surtout pour le dimanche, hein, cette journée qui était si particulière autrefois, qui a été un petit peu banalisée. Alors, on vous écoute.
Oui, mais les dimanches, en 2022, c'est un jour presque comme les autres, n'est-ce pas? La messe du dimanche des chrétiens a pu l'aura d'antan, d'un, à cause de la chute de la pratique religieuse, au Québec à tout le moins, et en raison de la rareté des officiants, c'est pas rare de voir des paroisses où on offre des messes en semaine et le samedi, mais pas le dimanche. Et pratiquement tous les commerces sont ouverts. Donc, si on ne sait pas qu'on est dimanche, il est possible qu'on ne s'en rende même pas compte. Mais il n'y a pas encore si longtemps, c'était une journée complètement à part des autres. Et je vais me pencher aujourd'hui sur deux aspects des dimanches d'autrefois. Je vais vous parler des Blue Laws qui dressaient la liste des interdits dominicaux dans quelques minutes, mais d'abord, vous avez sûrement déjà entendu, Francine, l'expression « s'endimancher ».
Oui, certainement.
Ça veut dire se parer de ses plus beaux atours pour une occasion X ou Y. Mais pendant très longtemps, s'endimancher, c'était quelque chose de très littéral. Beaucoup de gens avaient une tenue pour la semaine, alors qu'on travaillait à l'usine, dans les champs ou peu importe, et une autre pour aller assister à l'office du dimanche. Et quand je dis une tenue, c'est pas que les gens avaient forcément une chemise, un pantalon, une robe pour les jours de semaine. Ça pouvait arriver. Mais en fait, on avait une manière de se vêtir du lundi au samedi et une autre pour les dimanches. Et c'est pour ça qu'au Québec, on parlait de s'habiller en semaine ou s'habiller en dimanche. Et si on avait une sortie propre à faire, disons, un mercredi, on s'endimanchait parce qu'on mettait nos habits normalement réservés au dimanche. Le verbe « s'endimancher » est attesté dans la langue française depuis la deuxième moitié du 16e siècle. Et au départ, ça avait une connotation péjorative, parce que c'était les gens des classes laborieuses qui s'endimanchaient. Les nobles, eux, portaient de beaux habits 7 jours sur 7. Mais les gens au bas de l'échelle, pour leur part, troquaient leur arbre de travail, souvent vieille, usée, contre leur tenue chic. Et la bonne société les trouvait un peu grotesques d'essayer d'oublier et surtout de faire oublier leurs conditions pendant quelques heures. En France, l'idée de se vêtir en dimanche pour la messe vient de l'Église elle-même. À mesure qu'on se dote de temples richement décorés, on va commencer à exiger une tenue soignée des fidèles, mais le clergé va vite perdre le contrôle sur cette directive-là. Parce que même s'il regardait les classes populaires de haut, les messieurs et surtout les dames de la bonne société s'endimanchaient également, et ça devenait un peu un concours qui porterait les plus belles tenues à l'église.
Les chapeaux, les plus belles robes, les plus beaux chapeaux.
Les plus belles parures, ce qui était le plus clinquant, voilà. Et le clergé va se battre contre les vêtements pompeux et immodestes portés lors du jour du Seigneur, même que le pape va accorder l'autorisation au curé de refuser carrément l'accès à l'église aux femmes qui portent une tenue qu'on jugeait comme étant indécente. Mais si on était tiré à quatre épingles le dimanche, c'était pas seulement pour la messe. On aimait aller se balader en ville, histoire d'être vu par un maximum de gens. Et le peuple se sent tellement en confiance lorsqu'il porte ses beaux habits qu'il va commencer à investir toutes sortes de lieux normalement réservés à l'élite qui acceptent très mal la démocratisation d'endroits comme le Jardin des Tuileries à Paris. Un ouvrage nommé « Le guide du promeneur » décrit en 1855 la situation dans les jardins comme suit, là je cite. Les barbares se sont emparés de ces allées d'ordinaire si tranquilles et si aristocratiques. On n'y va pas par quatre chemins. Une foule immense venue de tous les coins de Paris se pousse, se bouscule et s'étouffe sous le prétexte de chercher l'ombre et la fraîcheur parmi les marronniers étonnés d'une invasion aussi peu cérémonieuse. Des toilettes insolentes blessent les regards avec leurs couleurs éclatantes et disparates. La société d'élite a fait place à la cohue. Et toujours, dans cette France du 19e siècle, il y a beaucoup d'informations que je vous partage ici qui sont tirées d'un article intitulé « Paraître dominical et jeu des apparences dans les villes françaises » de Robert Beck. Il nous explique que dans la France du 19e siècle, la plèbe voulait même aller au théâtre les dimanches, ce qui était ça aussi très choquant pour la haute société. On n'allait pas au théâtre pour y côtoyer les gens qui d'ordinaire travaillent pour nous. Mais au moins, il y avait du théâtre dominical dans l'Hexagone. À ce moment-là, ce n'était pas le cas partout. Dans beaucoup de sociétés chrétiennes, les éléments les plus religieux vont faire pression pour que le dimanche soit un jour chômé, de la même manière que Dieu, lorsqu'il a créé l'univers en 7 jours, il a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e. Donc le dimanche, on devait observer le jour du Seigneur et nous reposer. Et les législateurs vont accoucher de lois et de règlements pour codifier ce qui était possible et surtout ce qui était interdit de faire lors du repos dominical. Dans le monde anglo-saxon, on appelait ces règles-là les « blue laws », donc des lois bleues. L'origine du terme est imprécise, mais c'était le vocable qu'on employait. Et le premier item inclus dans les lois bleues, c'était l'interdiction de travailler. Les lieux de travail, les commerces étaient fermés, c'était interdit de vendre ou d'acheter des biens et des services. Et l'idée d'imposer une journée de repos pour tous et toutes, ça avait du bon à une époque où bien des hommes d'affaires auraient volontiers fait travailler leurs ouvriers et ouvrières 365 jours par année si on leur avait laissé le champ libre. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas que ça d'interdit, bien au contraire. Le Parlement fédéral canadien a adopté en 1906 « The Lord's Day Act », littéralement la loi du jour du Seigneur, à une époque où la séparation de l'Église et de l'État n'était pas ce qu'elle est devenue par la suite. Et je vous donne une idée de ce que ça pouvait représenter. Voici une liste partielle de ce qu'on interdisait de faire chez nos voisins en Ontario, où on prenait vraiment le dimanche au sérieux. Toute forme de travail, c'est interdit, y compris les travaux de la ferme. Et ça, j'avoue que ça m'a étonné, surtout quand on a des animaux. Il y a un certain nombre de travaux qu'on se doit de faire chaque jour, que ça plaise au bon Dieu ou non. Donc, je ne sais pas si cette directive-là était rigoureusement suivie. Toute réunion, assemblée, rencontre de groupe, autre que pour les activités religieuses, c'est interdit. Il n'y avait pas de journaux le dimanche, locaux ou étrangers, parce qu'on ne pouvait pas acheter, vendre ou livrer quoi que ce soit. La chasse, la pêche, c'est interdit. Les spectacles, le théâtre, le cinéma, le sport professionnel, tout ça, c'était illégal. Et même, dans le cas du sport professionnel, si on commençait un match le samedi et qu'on se rendait en prolongation, à minuit pile, quand on passait de samedi à dimanche, on devait tout arrêter. On peut facilement comprendre que, dans ce contexte-là, les lois sur l'observance du dimanche ne faisaient pas l'unanimité. Les non-chrétiens, d'abord, qui se faisaient imposer une journée chômée par semaine en l'honneur du Dieu des chrétiens, ça ne leur convenait pas vraiment. Et même chez les chrétiens, avoir une journée de congé, c'est bien, mais ça aurait été beaucoup mieux si on avait pu se récréer pendant notre jour chômé. C'était la journée dans la semaine où les gens de la classe ouvrière pouvaient aller au cinéma, au concert, à la pêche, mais tout est interdit. Ceci dit, les provinces et les villes avaient de la marge de manœuvre dans l'application de la loi sur le jour du Seigneur. On était beaucoup moins sévères au Québec qu'en Ontario. À Montréal, par exemple, le sport professionnel était légal, les cinémas étaient ouverts, mais les magasins étaient fermés ici comme ailleurs. Ce n'est qu'en 1985 que la Cour suprême du Canada a invalidé la loi sur le respect du jour du Seigneur. Et au terme d'un débat lancinant qu'on a eu ici au Québec, le gouvernement québécois a permis l'ouverture des épiceries en 1990 et les autres commerces ont suivi en 1992. Et on avait, à ce moment-là, Francine et Yvan, complété la transition d'une journée tout à fait à part des autres à une journée presque en tout point comme les 6 autres journées de la semaine.
Il reste, Marcel, que la question persiste parce que pendant la COVID, on s'est dit, mais pourquoi ne pas continuer à fermer les commerces le dimanche, sauf les commerces essentiels? Alors, ça demeure bien d'actualité.
Il y a effectivement un mouvement en faveur du retour du dimanche chômé à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr qu'on veut réinterdire la pêche et la chasse, par contre.
Probablement pas. Alors, merci, Marcel, et à la semaine prochaine, on se retrouve avec une autre chronique.
À la semaine prochaine.
Francine, une courte par actualité, s'il vous plaît.
Une courte, très courte. Alors donc, c'est l'Office des personnes handicapées du Québec, qui parle d'une étude qu'elle est en train de mener. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une étude qui porte sur l'accessibilité des petits bâtiments aux personnes handicapées.
Qu'est-ce qu'on entend?
Alors, les petits bâtiments, ben, c'est des bâtiments de quelques étages, hein. C'est pas des grands complexes où il y a pas de rampe, où il y a pas d'accès, ou encore d'ascenseur, ou de choses comme celle-là, qui peuvent permettre un accès facile. Mais il y a quand même, dans certains endroits, plusieurs endroits, des biens et services qui sont offerts à la population. Ce qui est bien avec ça, c'est que, bon, normalement, il y a un rapport qui va être déposé et il devrait avoir des mesures, des actions prises en 2023. Cette étude, elle est menée donc au courant de l'été, ça se termine en août 2022, par des étudiants en technologie du génie civil du Collège Hantzik et en technologie de l'architecture du Cégep de Lévis. Alors, on a fait participer, en fait, des étudiants à cette étude-là qui est bien importante. Vous le savez, vous, Yvan, qui travaillez aux élections et comme c'est essentiel d'avoir des accès dans des lieux pour que tout le monde puisse aller voter.
Oui, mais on fait des travaux présentement pour assurer l'accessibilité à tous les gens. Mais effectivement, les petits édifices là, dont vous parlez, c'est pas nécessairement facile à adapter, puis ça coûte relativement cher. Je pense juste aux édicules de métro là, qui ont quand même des budgets plus importants, puis c'est vraiment pas simple. Au retour de la pause, on va parler avec Francine Forget, tiens, et on va parler de télescopes, mais de mini-télescopes. Alors, on se parle dans quelques instants.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forgette et Yvan Deslauriers.
Et Francine, vous allez nous parler de mini-télescopes. En fait, on se promène peut-être avec un mini-télescope dans les poches?
Peut-être, pour certains privilégiés, mais pas tous, parce qu'il faut être Apple, il faut être iOS et non pas Android pour le moment.
Oh, bon Dieu!
Donc, il y a un petit peu de discrimination. Oui, alors donc, je parle de mini-télescope. Écoutez, cette semaine, on a tellement parlé de l'univers parce qu'on a vu l'univers, on en a entendu parler et c'était vraiment la grosse nouvelle de la semaine, comme vous l'avez si bien relevé dans vos faits saillants. Même Joe Biden a participé à ça.
Il a scoopé la NASA.
Alors, lundi, il a décidé qu'il participait à au dévoilement de certaines photos. Oui, qui portaient sur des galaxies fumées qui ont été formées, voyons, par le Big Bang. 13 milliards d'années. Hein, il y a 13 milliards d'années. Mm-hmm. Alors, donc, c'est ça. Il n'y en a pas parlé à personne.
Il a organisé son affaire.
Mais la NASA n'avait pas l'air d'être trop. Hein, pas en reste. De toute façon, le lendemain, elle avait tellement de choses à nous montrer que c'était pas trop grave.
Et c'était spectaculaire.
Vraiment. Bon, ce dont je vous parle, ce sera peut-être moins spectaculaire, mais on peut y arriver avec un peu de patience. Je vous parle d'une nouvelle application qui peut transformer son iPhone en mini-télescope. Sur le site de Presse Citron, un site français qui porte, pressecitron.net, qui porte sur les technologies, on en parlait récemment. Tristan Carbaleda fait un papier là-dessus. L'application, elle est gratuite. C'est très intéressant. Et elle a été développée par une jeune société marseillaise.
Oh.
Unistellar, c'est une entreprise française qui est spécialisée déjà dans la conception de télescopes intelligents. Des télescopes assez puissants, comme j'ai cru comprendre. On ne parle pas de James Webb ici, là. Je ne pense pas qu'ils aient participé au développement de ça. En tout cas, ils en auraient parlé, j'imagine, pour se faire un peu de publicité.
C'est quand même le Nec plus Ultra du télescope. Là.
Oui, c'est le Nec plus Ultra. Mais donc, ils savaient que leur produit était intéressant. Ils savaient aussi qu'il y avait bien des gens qui auraient aimé s'en procurer, mais ces produits-là, qui étaient vendus à plusieurs milliers d'euros, n'étaient pas accessibles, évidemment, au commun des mortels. Alors, c'est ce qui les a motivés, les gens de Unistellar, à développer une application gratuite sous iOS présentement, qui permet d'avoir un aperçu du résultat d'un télescope avec un simple iPhone.
D'accord.
Alors, pour télécharger cette application-là, vous allez dans votre App Store, comme on l'appelle en bon français, et vous allez chercher dans l'engin de recherche Nocturne, N-O-C-T-U-R-N-E, et je vous conseille de mettre plus Unistellar, parce que j'ai fait la recherche sans Unistellar, et il y a un certain nombre de nocturnes qui apparaissaient. C'était pas évident. Alors, pour aller directement à l'application, donc Nocturne plus Unistellar. Avec Nocturne, il est possible de voir se dessiner des planètes et autres constellations directement sur des photos prises du ciel. Et en plus, l'application permet d'en savoir plus sur des éléments présents dans le ciel, puisqu'il y a un onglet qui permet de d'avoir un peu d'informations sur ce qui se retrouve sur notre téléphone intelligent. Bon, j'ai essayé, je ne suis pas satisfaite des résultats obtenus, mais je vais persister et j'imagine que je vais peut-être découvrir toutes les merveilles de ce mini-télescope, mais j'ai quand même décidé de vous en parler. Pourquoi? Parce que, bon, il y avait cette semaine, c'était d'actualité, mais aussi parce que pour avoir, et c'est bien précisé dans l'article, pour avoir vraiment le résultat, ça prend une très grande stabilité. Parce que les photos qu'on va prendre vont prendre de 1 à 4 minutes. Hein?
Oui,
ça prend,
oui, oui.
Oui, le temps est assez long. Hein? Le temps d'exposition, c'est très, très lent. Donc, si on n'est pas fixe, ça va donner des choses un petit peu embrouillées, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas très intéressant. Donc, pour que ça reste immobile, ce cher téléphone, il faut avoir un petit trépied. Et pas juste un porte-téléphone. Là, moi, j'en ai un, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est difficile de l'installer pour avoir justement ce qu'on aimerait bien avoir. Alors, donc, ça, c'est la condition, là, je dirais, sine qua non, c'est d'avoir ce petit téléphone, ce petit trépied pour empêcher notre téléphone de bouger. Deuxième condition, évidemment, ça prend des bonnes conditions atmosphériques. Hein? Je veux dire, il faut avoir un beau ciel étoilé sans nuages. Alors, on a du très beau temps cette année, mais quand arrive en soirée, je peux vous confirmer que c'est souvent plus voilé.
On est rendu à la chronique
qu'on
météo.
On pense. Ben, on s'approche de la chronique météo. Ce qui est intéressant avec Unistellar, c'est nocturne, c'est que quand on est dans l'application, j'ai trouvé que les indications, le processus était très clair et c'était facile de suivre le tout. Donc, on s'en remet à l'application, on procède selon les indications et on arrive à un résultat.
Pendant que vous parliez, j'ai regardé sur ma... j'ai pas un téléphone machin, là. Mais j'ai un...
Apple? Vous avez Apple?
J'ai pas iOS sur mon téléphone. J'ai un vulgaire téléphone Android.
Ah, comme moi. Voilà. OK, mais votre tablette...
Mais ma tablette.
Oui, sur la tablette, ça fonctionne
fait
aussi.
Que je suis allé sur le Apple Store oui. Et j'ai trouvé la.
Vous l'avez trouvé. Bon, alors c'était mon scoop parce qu'à la fin, je voulais vous dire, si vous pouvez vous consoler... Oh, Yvan, je suis contente que vous partiez en vacances.
Je me console.
Alors, Yvan, c'est que vous avez été vite. Bravo. Écoutez, oui, sérieusement, j'allais vous dire à la fin si vous n'avez pas un téléphone avec iOS, donc pas un Apple, vous avez peut-être une tablette. Hein? J'ai beaucoup de gens ont la tablette. Et avec la tablette, ça va très, très bien. Je vais revenir quand même un peu sur l'application pour vous dire aussi que vous pouvez partager hein, le fruit de votre travail, ces photos, avec d'autres, une communauté de passionnés. Et donc, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, ça peut peut-être donner lieu à des conversations, des échanges sur l'observation du ciel. La compagnie Unistellar dit qu'elle travaille pour que Android ait aussi son application très bientôt, que c'est une priorité, mais il n'y a pas de date. Et quand on est dans des technologies et qu'on parle de pour très bientôt, il faut toujours avoir une petite gêne, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Je change de sujet, j'arrive avec quelques... Oui, allez-y.
J'ai quand même un petit projet avec votre proposition. J'ai la réputation, ça va être les perséides au début du mois d'août, et j'ai la réputation de prétendre que les perséides, c'est une rumeur. J'ai jamais vu une étoile filante de ma vie, ou presque pas. Alors, je vais prendre votre application sur ma tablette. Je vais déposer la tablette sur une table qui va regarder vers le ciel. Je vais peser sur le petit bouton. Et quelques minutes plus tard, vous avez dit 4 minutes environ?
Oui, parce que c'est long. Là. La première fois que vous allez peser, vous allez dire, est-ce que ça fonctionne, cette affaire-là? Alors oui, ça fonctionne cette affaire-là. C'est la patience qu'il vous faut pour... le dernier prérequis pour arriver à quelque chose de satisfaisant avec cette petite application-là.
Alors peut-être que je vais voir une étoile filante. Peut-être.
Ça se peut.
On s'en repart. On s'en, ben, on va faire des chroniques ensemble pendant
oui,
mon...
Oui, puis ben là, à ce moment-là, vous partagez.
Oui.
Et j'y serai pour partager votre réussite.
Peu importe les mots et la manière, peu importe les ombres et la lumière, toutes les blessures du temps sur la conscience, toutes les raisons de confesser la démence, à toutes les minutes et à toutes les secondes, peu importe les bêtises que je te raconte, à tous les coins et les rues et les tournants, peu importe si je vois rouge comme le sang, mon âme pour te croire. Peu importe si tu lis entre les lignes, peu importe les alarmes et les signes, peu importe les cris et les échos, peu importe la chair et le sang et les os.
Guillaume Beauregard qui chantait « De pluie et de cendres ».
Oh, merci beaucoup. Je me tourne vers Carole Froment, Madame Carole Froment, qui est coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA. Bonjour, Madame Froment.
Bonjour.
Et on va parler d'une journée découverte, je pense.
Oui, exactement. Une journée découverte qui aura lieu donc ce mercredi 20 juillet.
Mm-hmm. Pas donc, loin de chez moi?
Oui, au parc Maisonneuve.
Vous dites oui comme si vous saviez où je demeure.
Donc c'est une journée découverte, c'est une journée d'initiation en fait pour découvrir différents matériels adaptés, notamment des vélos à bras, des tricycles pour adultes, pour enfants. Également des fauteuils tout-terrain pour ceux qui veulent plus faire de la randonnée. Puis de la joëlette aussi, dont nous avions parlé il y a quelques semaines, donc qui est un fauteuil monoroue pour des handicaps un peu plus sévères, on va dire.
D'accord. Maintenant, vous parlez de vélo à bras. Ça, je vois ce que c'est. Là, j'en ai déjà vu. Mais les autres choses dont vous avez parlé, puis la joëlette aussi, mais les autres choses dont vous avez parlé, j'aurais peut-être besoin d'un peu plus d'informations.
On a beaucoup de tricycles parce que c'est sûr que c'est des vélos qui ont plus de stabilité. Puis c'est assez populaire aussi le tricycle. Donc on en a pour enfants, puis on en a pour adultes.
Puis là, vous pédalez de quelle façon sur le tricycle, avec vos pieds ou avec vos mains?
Non, avec les pieds.
Avec les pieds.
Okay. Oui. Puis je vous ai aussi parlé de fauteuils tout-terrain. Donc ça, c'est des fauteuils qui ont la capacité d'aller sur des sentiers beaucoup plus difficiles, on va dire. On peut faire de la forêt, on peut vraiment comme aller dans des sentiers plus boueux, on peut aller sur la plage, on peut vraiment rouler dans toutes sortes de conditions. Et même pour une petite information, on a fait le week-end passé, on a une course à obstacles grâce à nos fauteuils tout-terrain. Donc on a pu amener deux personnes en situation de handicap faire une course à obstacles de plus de 30 obstacles. Donc vraiment pour démontrer que c'est du matériel qui est vraiment propice pour rouler partout.
Est-ce que les deux personnes se sentent bien aujourd'hui?
Elles ont adoré. Vraiment, elles ont eu beaucoup de fun. C'est un très gros défi. C'est beaucoup d'engagement physique, beaucoup de fatigue, mais elles ont adoré.
Est-ce que elles sont... est-ce que c'est elles qui font bouger le véhicule ou il y a des personnes pour les aider?
Les deux. Le fauteuil tout-terrain a comme deux bras sur les côtés qu'on actionne d'avant en arrière, donc ça fait avancer les roues, mais quelqu'un peut pousser aussi pour aider, pour faire par exemple comme de la randonnée en montagne, en montée, évidemment quelqu'un pousse derrière, sinon c'est trop physique.
Mm-hmm. Et la journée découverte, c'est au parc Maisonneuve, ça commence à quelle heure? Est-ce qu'on doit s'inscrire, des choses de ce genre?
Oui, ça commence à 10h le matin, puis on a des créneaux jusqu'à 16h. On a encore de la place pour cette journée-là, pour le matin. Donc de 10h à 13h30, on a encore de la place. Puis toutes les inscriptions se font via notre site web, donc siva.qc.ca. C'est très facile, dans l'onglet programmation, vous pouvez trouver comment vous inscrire facilement. Puis nous, après, on rentre en contact avec la personne qui souhaite participer pour lui confirmer le créneau horaire auquel il est inscrit. Elle est inscrite.
D'accord. J'imagine que ça doit se passer près du pavillon d'accueil, peut-être?
Près du chalet.
Oui,
c'est ça. C'est le point de rencontre, puisque c'est plus facile d'accès pour les transports adaptés. Donc, c'est le point de rencontre, c'est au chalet, oui.
Et là, les personnes se présentent et qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont accueillis, de quelle façon? Comment ça fonctionne?
Oui, à ce moment-là, notre équipe est donc sur place, on accueille la personne, puis on lui demande est-ce qu'elle souhaite essayer un ou plusieurs matériels. Donc, en général, on réserve des créneaux d'une heure. Donc, sur une heure, peut-être que la personne va souhaiter juste essayer du vélo, ou alors elle va nous dire moi, je souhaite faire du vélo, du tricycle et du fauteuil tout-terrain. Mm-hmm. Dans ce cas-là, on donne la possibilité d'essayer tous ces matériels-là. Puis, il y a des personnes qui sont autonomes qui vont se présenter en nous disant qu'elles ont déjà de l'expérience, puis qu'elles souhaitent vraiment pratiquer de façon autonome. Puis, il y en a d'autres qui sont vraiment là pour de la découverte. Et dans ce cas-là, on les accompagne sur toute leur expérience.
Je comprends. Puis, c'est gratuit?
Oui, c'est gratuit.
Fantastique. Alors, je rappelle que de 10h à 13h30, c'est mercredi prochain, le 20 juillet. Il y a de la place encore pour essayer ou pour pratiquer ces choses-là. Vous devez passer par le site du SIVA pour vous y inscrire. Et je vous souhaite une belle journée le mercredi. Qu'est-ce qui arriverait s'il pleut, par exemple?
Bon, quand c'est de la pluie fine... Très souvent, on maintient nos activités. C'est vraiment en cas d'orage ou de très forte pluie qu'on annule. Malheureusement, si jamais il y a de la pluie, on devra annuler.
D'accord. Puis là, est-ce que c'est déplacé à ce moment-là ou c'est carrément annulé?
Sachant que notre programmation est quand même, très complète pour l'été, là. Je ne suis pas sûre qu'on serait en mesure de déplacer. Puis, c'est possible, par contre, que l'initiation au vélo adapté qu'on propose la semaine d'après, le 26 juillet, on y apporte du matériel complémentaire, donc comme les fauteuils tout-terrain, pour créer une journée découverte, on va dire.
Puis pour les petits curieux qui nous écoutent, l'initiation au vélo adapté, c'est au parc Jean Drapeau la semaine suivante. Donc, je remercie Mme Carole Froment, qui est coordonnatrice au développement philanthropique et aux communications du CIVA, du Centre d'intégration à la vie active. Et on se reparle avec grand plaisir dans un mois.
Un grand merci à vous. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
On n'aura pas beaucoup de temps. Ouais, c'est ça.
Simon Kingsbury qui chantait la chanson « Comédien ».
Ah, c'est lui, Simon Kingsbury. Oui. Francine,
oui.
C'est le temps de nous qu'on se parle, qu'on s'échange ce qui va nous intéresser particulièrement en fin de semaine.
Puis là, on le fait, puis après ça, ça va prendre un bon bout de temps avant qu'on puisse le faire.
On peut se chicaner encore.
Oui, alors trêve de plaisanterie, hein, parce que j'ai fait beaucoup de références à ça. Je vais m'ennuyer, Yvan. Tellement que je vais vous demander de participer à quelques émissions pendant votre congé de 4 semaines.
Oui, je vais vous parler des îles.
Oui, des îles. Alors, on n'en dit pas plus, là, pour qu'on crée une surprise.
Mais c'est au Québec, quand même.
C'est au Québec. On reste au Québec. Alors, moi, je reste à Montréal. À midi aujourd'hui, si on est vraiment intéressé par l'exposition de cette très grande artiste japonaise, Yao Kusama, c'est merveilleux. La Chambre des miroirs, c'est les Chambres des miroirs. Il faut aller voir ça. Je ne sais pas comment vous décrire. C'est plein de couleurs, c'est plein de sensations, de vide, d'univers, ça rejoint l'univers. Cette artiste contemporaine japonaise a 93 ans, elle ne cesse de produire, elle est extraordinaire, il faut en profiter. Donc, ce parcours, qui est gratuit au Centre Phi, dans le Vieux-Montréal, mais ça prend des billets. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il est très populaire. Ils ont fait une première émission de billets et là, la deuxième se fait aujourd'hui. Alors, si vous êtes intéressé, là, vous allez sur le site avant, arrivez pas à midi moins 5, arrivez un peu d'avance, pour vous mettre dans la queue à phi.ca pour justement accéder à ces fameux billets. Et à midi, même si vous êtes toujours en ligne, vous pouvez quand même écouter là, Madame Lavoie, Chantal Lavoie sur M l'été.
Oui.
En attendant, ça va vous faire patienter parce qu'il y a des milliers de personnes qui, la dernière fois, était en queue. Alors, j'imagine que ça va être un peu la même chose parce que là, on a 16.
Pour écouter Mme Lavoie,
ben, ou pour peut-être, avoir des billets? Pour avoir des billets, mais aussi pour deux, écouter ouais. Mme Lavoie. Mais Mme Lavoie, elle va être là à midi pile, alors oui, que l'autre, ça, on ne sait pas. Mmh. Alors, je vous invite fortement à aller voir cette chose merveilleuse qu'il ne faut pas manquer. Quand il y a des événements comme ça, je trouve c'est important d'y aller.
L'exposition est prévue pour combien de temps?
Ça va durer jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de janvier. Mais disons qu'il y a beaucoup de monde et je dirais qu'ils s'en parlent beaucoup. Il y a des gens que je connais, moi, qui ne sont pas nécessairement friands d'art contemporain ou de d'exposition et qui y vont parce que c'est un événement, hein, je veux dire, c'est un événement autant qu'on a eu avec ceux de l'Arsenal où on est allé se promener justement dans l'univers, où on est allé aussi avec les réfugiés dans le film d'Eranitsu. Alors c'est ça, faut pas manquer ça, selon moi. Enfin, avant de vous laisser la parole,
écoutez la madame, là.
Il faut faire chaud. Si jamais vous voulez faire une petite pause fraîcheur, pourquoi pas des films québécois?
Oui.
Je vous rappelle qu'à l'affiche présentement, il y a Arsenault et fils de Raphaël Ouellet. C'est extraordinaire.
C'est un excellent
film. Il faut aller voir Guillaume Cyr. Il y a aussi...
La musique aussi.
Oh, la musique, tout. Ligne de fuite dont on a beaucoup parlé, de Catherine Chabot et Myriam Bouchard. C'est aussi à l'affiche avec Mariana Mazza. On a dit beaucoup qu'elle avait un talent d'actrice hein, qu'on découvrait dans ce film, mais tous les acteurs sont bons. C'est pas des comédies. Mais surtout Ligne de fuite, on dit que c'est une comédie. Moi,
Vous avez pas
vu. Et cette semaine, s'il fait encore chaud, n'oubliez pas que le film de Luc Picard dont j'ai parlé tantôt, Confession, sera à l'affiche à partir du mercredi 20 juillet. Yvan, et vous, que nous recommandez-vous avant votre départ?
Moi, je vous recommande, en fait, oui puis non, c'est que c'est un événement qui me tient à cœur encore beaucoup. J'ai participé pendant 5 ans au défi vélo de la Maison des greffés Lina Cyr. Si vous ne connaissez pas la Maison des greffés, grand bien vous fasse parce que vous n'en avez pas eu besoin. Mais des personnes qui attendent une greffe et qui ne vivent pas à Ville d'Anjou comme moi, qui vivent, par exemple, en Gaspésie ou en Abitibi, et qui doivent résider à Montréal en attendant qu'il y ait une greffe de disponible. Parce qu'une fois qu'il arrive quelque chose puis que la greffe est disponible, il faut être là.
J'imagine, hein, c'est pas un rendez-vous qu'on remet.
Alors, la Maison des greffés là, est située, je suis en train de la pointer, là, est située sur Sherbrooke, au coin de Bordeaux, il me semble, ou quelque chose dans le style. Et à tous les ans, il y a une activité, il y a plusieurs activités, là, mais il y a une activité principale de financement qui est le défi vélo. Alors, mes amis du défi vélo, ils sont sur leur vélo au moment où on se parle. Et ils font l'étape de Bel-Oeil à Drummondville aujourd'hui. Et demain, ils font Drummondville à Lévis. Demain, là, c'est 180 km sur leur vélo. Puis il va faire un peu chaud. Alors, je vais les suivre. Si on veut faire des dons, vous allez sur le site de la Maison des greffés. Vous pouvez faire votre don. C'est vraiment une cause importante pour les gens qui attendent impatiemment, puis il faut qu'il soit là.
Alors, merci à Mathieu Tessier. Merci, Yvan, pour ces 11 semaines qu'on a passées ensemble. J'ai bien hâte à votre retour, mais je vous souhaite entre-temps beaucoup, beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup, Francine. Et puis, comme vous l'avez souligné, on se reparle quand même des îles de la Madeleine. Et puis, j'ai déjà quelques sujets en tête. Alors, ça va être bien plaisant. Au plaisir de se reparler bientôt.